Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien bonjour à tous, chers gladiateurs, vous êtes bien dans les arènes de l'écologie. Alors aujourd'hui on a affaire à... grosse partie prenante, puisqu'en face, c'est notre ami Monsieur Trump qui débarque, qui revient. Donc, le président Backlash et sa politique réactionnaire annonçaient la couleur, hein, et pas que orange, elle est surtout un peu noire. Donc voilà, ça va être le grand sujet de l'émission, le retour de bâton anti-écolo, anti-immigration. Ensuite, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que la France est déjà contaminée par la maladie orange ? Est-ce qu'il faut commencer à définir les choses à préserver et à protéger ? Les acquis écologiques sont-ils menacés ? D'ailleurs, quels sont-ils ces acquis écologiques ? Il faudrait peut-être les définir. Ensuite, eh ben, quelle barricade faut-il dresser pour défendre... ces acquis écologiques contre les menaces qui commencent à se préciser. Et puis ensuite, faut-il se préparer à l'esprit de Valmy et effectivement un Valmy écologique pour défendre les valeurs de l'avenir de notre planète et puis de notre petite humanité. C'est bientôt 8 milliards, c'est plus de 8 milliards d'habitants. Quels vont être leurs destins ? Donc voilà, donc ça va être le grand sujet du moment. On va échanger avec nos invités du jour. Donc David Pierre de Cités Unies France qui va nous parler des pouvoirs locaux qui sont déjà en train de se préparer et qui commencent à prendre l'habitude du backlash. Ils avaient déjà fait ça il y a 8 ans maintenant. Hein. Et puis Olivier Lange qui est un citoyen écologique du secteur, qui est un bon connaisseur de la planète, qui a tiré sa... qui a bien voyagé, il était bien placé puisqu'il était chef d'escale chez Air France. Et puis aujourd'hui, il s'occupe plutôt d'insertion professionnelle, de développement de compétences pour l'école de la deuxième chance. Donc effectivement, il voit aussi tout le changement l'impact de la nouvelle économie sur les métiers, sur l'insertion dans les entreprises. Et grosso modo, ce qu'il nous disait il n'y a pas longtemps, c'est que le travail change sous cette nouvelle pression. Bon, donc on a de quoi parler, on va aborder plein de sujets, mais on a... pour commencer, déjà notre rubrique actualité avec Ben. Bon. Ben qui a fait encore ton... T'as fait combien de tours du monde de la planète à
bonjour,
Paris
cette semaine ? Bonjour François. Écoute, c'est important. C'est important de vous parler de 2025.
Oui.
Parce que nous assistons quand même, de façon plus ou moins médusée, à la glaciation des rapports internationaux. Or, 2025, vous ne le savez peut-être pas, c'est l'année internationale de la préservation des glaciers.
Oui, c'est sorti ce matin.
Ça a été décidé récemment entre l'UNESCO et l'OMM. Si vous ne savez pas ce que c'est l'Organisation Météorologique Mondiale qui est basée à Genève. Et ils ont lancé le 21 janvier, oui, c'est pas très loin, l'année internationale de la préservation des glaciers. Donc l'idée, c'est de pouvoir protéger ces châteaux d'eau qui sont quand même essentiels. Et pourquoi ils sont essentiels ? Parce qu'ils fournissent de l'eau douce à plus de 2 milliards d'individus.
Ah, il y a quand même 6 milliards qu'on n'en a pas.
Voilà, donc c'est quand même... j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a une autre raison, c'est que vous connaissez peut-être le 21 mars, qui est la journée mondiale de l'eau. Et bien maintenant, ça va être en même temps... Changez vos agendas, ça va être en même temps la journée mondiale des glaciers.
Et pas des glaçons.
Et voilà, donc ça c'est une décision qui a été prise, et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution comme quoi, alors là, tenez-vous bien, la période 2025 à 2034 est la décennie d'action pour les sciences cryosphériques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cryosphère, je m'en doutais.
Cryogénie, je sais.
Mais la cryosphère, eh ben, c'est la partie d'eau gelée de tout le système terrestre. Donc voilà, donc, ça c'était quelque chose qui n'a rien à voir officiellement avec la glaciation de, certaines relations internationales et du nouveau tsunami qui s'appelle Monsieur Trump. Mais puisqu'on parle de Trump, il faut quand même qu'on fasse un petit, non pas un récapitulatif, mais de voir un peu les retombées de ça. Parmi les retombées, il va y avoir au Canada, il va y avoir un nouveau Premier ministre qui va succéder à Trudeau. Et c'est un trumpiste convaincu et qui s'appelle Pierre Poilievre. Ça, c'est le prochain. Bon, entre-temps, il y a le Groenland qui va aussi réfléchir, qui va réfléchir surtout à savoir comment il peut éventuellement devenir vraiment indépendant, tout en ayant éventuellement des accords de coopération avec les États-Unis, du style de ce qu'ont réussi à faire les îles Vierges. Et alors, il y a une petite chose quand même qu'il faut que je vous dise, François, dans le cadre de tout ce qui fait partie du panorama international, il y a une pub. Il y a une pub de Pakistan Airlines qui fait beaucoup de bruit ces jours-ci. On y voit un avion qui fonce sur la tour Eiffel. Et c'est marqué « Paris, on arrive ». Alors évidemment, ce sont des images qui n'ont pas toujours été très 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 bien interprétées, parce que certains ont pensé à 2001, un Boeing qui fonce sur les tours jumelles. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une des appréciations des internautes. Alors je vous la livre, citation. « Imaginons qu'une compagnie française ait montré une pub de ce genre où un avion fonce sur une mosquée. Imaginez l'indignation que ça aurait suscité. » Bon, bref. Ça, c'était pour l'anecdote. Mais maintenant, venons-en aux choses sérieuses. Il y a d'une part, entre l'Inde et la Chine, il y a une nouvelle arme en matière d'espionnage. C'est, oui, c'est le recours aux pigeons voyageurs. Ça revient. La France n'est pas la dernière d'Europe à former des pigeons voyageurs. Non, non. La Chine se lance à fond. Ils ont déjà réussi à mobiliser plus de 10 000 oiseaux qui sont formés pour soutenir l'armée populaire de libération. En cas de guerre, bien sûr. Sinon, pour les États-Unis, les États désunis...
350 millions de pigeons.
Il y a quand même une révolution conservatrice qui est en marche. Et c'est assez sidérant de voir un Trump qui se fait le champion de la classe ouvrière et qui se fait aussi, qui passe pour un amoureux du pacifisme. Mais, bon, avec un Elon Musk, faut pas oublier, dont la fortune personnelle est supérieure au produit intérieur brut de la Finlande. Voilà, alors, avant de parler des villes américaines qui résistent...
N'est-ce pas?
T'as vu, j'essaie quand même de faire un peu...
Et on fera la transition après.
Alors, je voudrais quand même dire, pour l'Europe, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie, est devenue en 2025 la capitale verte de l'Union européenne. C'est une ville de 600 000 habitants, vous me direz, c'est pas très important, mais elle a des grandes ambitions écolo. Et j'ai essayé de voir sur quels critères. Eh ben, c'est principalement la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité, les déchets, le bruit, etc. Et alors en France? Alors en France, je vais quand même vous parler un tout petit peu de la France, avant de terminer ma petite chronique. France, eh bien, rappelez-vous de Sarkozy, qui nous avait expliqué que l'Africain n'était pas vraiment encore entré dans l'histoire. Vous vous rappelez, c'était le discours de Dakar il y a quelques années. Eh bien, Macron fait beaucoup mieux. Lui aussi, il a une certaine façon de revisiter l'histoire.
Dans la lignée.
Et oui, il n'intègre pas ce que la France doit à l'Afrique. Et donc, il déclare que les Africains ont oublié de dire merci. Ces ingrats. Voilà un peu... comment tourne le monde actuellement, François? Je crois que j'ai fait là un petit tour de piste.
Tu as fait ton tour du monde hebdomadaire.
Voilà.
Bah, c'est bien ça. Alors moi, par contre, je suis resté plus prosaïque. Je me contente de l'agenda de Madame la ministre de l'écologie.
Oui.
Non, parce que bon, on est en troisième semaine 2025. Ben oui, vous vous rendez compte, on a encore une ministre de l'écologie.
La transition écologique.
Oui, 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 mais bon, moi je...
Ah oui, c'est quoi l'appellation? Ça a encore changé, non? C'est ça?
Ça change tout le temps, mais là, c'est la transition. Hein.
Oui, oui, oui. C'est la transition. Oui.
Bon, on va rester sur l'écologie, c'est plus simple.
Ouais.
Bon, en attendant, je me disais qu'en France, nous étions bien contents d'avoir donc trois semaines consécutives un ministre de l'écologie, parce que, souvenez-vous, on a été quand même en 2024, 10 semaines sans ministre. Donc la Terre a failli arrêter de tourner. Mais bon, soyez rassurés, on a maintenant, c'est bien assuré, on a notre ministre. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a pu faire
Oui, d'habitude, tu nous donnes son agenda, c'est
oui,
ça
hein. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je vous réserve une petite surprise. Ah. Mais parce que, quand même, on a eu un peu peur la semaine dernière, parce que l'écologie avait quasiment disparu du discours de Monsieur le Premier ministre. Bon, mais heureusement... C'est pratiquement passé sous silence. On aurait pu craindre le pire, hein, une motion de censure. Mais bon, heureusement, Olivier Faure a avalé sa soupe à la grimace. Et puis, s'est satisfait de promesses de Premier ministre de Gascogne. Donc, François Bayrou a sauvé son poste au perchoir et reste donc à Matignon.
Il a sauvé l'environnement aussi, ou
voilà,
pas ?
Voilà, et Agnès Pannier-Runacher reste aux affaires écologiques, boulevard Saint-Germain.
D'accord.
Bon, sa tâche est tellement immense, les dossiers sont si variés et les urgences tellement criantes qu'on ne sait d'ailleurs pas par quelle priorité commencer. Qu'a bien pu faire Madame la Ministre cette semaine? Ben écoutez, un petit peu comme la semaine dernière. Mais bon, je ne vais pas dévoiler la...
Non, on veut la surprise.
Je ne vais pas spoiler la chose. Bon, en tout cas, elle aurait pu, par exemple, lancer une mission d'évaluation des conséquences écologiques de l'intelligence artificielle. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais à l'Élysée, on a décidé le 8 janvier qu'on organisait le 11 février un sommet de l'intelligence artificielle.
Ah oui, ça faut que je note.
C'est quand même... moi, je trouve ça assez sidérant qu'effectivement... Alors, c'est vrai que ça a dû être préparé un petit peu après celui qui s'était tenu en septembre ou en octobre à Londres, mais quand même, ça fait très très peu d'écho dans la presse, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y a qu'à traverser la rue, on est au Grand Palais, et comme ça, on peut inviter la planète entière pour décider de l'avenir technologique du monde. Je trouve que quand même, ça nous empêche de penser aux conséquences. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même la surexploitation d'Internet et des nouveaux moyens de communication. Et ça ne va pas forcément sans conséquence. Quelle est l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle?
Ouais.
Bon, c'est une question que je me pose. Je pense que beaucoup devraient pouvoir se la poser. Alors, je me la pose autant parce que j'ai fini de lire le livre de Guillaume Pitron sur la guerre des métaux. En attendant, naturellement, le manuscrit que Ben nous a promis pour le printemps sur un sujet comparable. Mais bon, on ne va pas dévoiler le...
Non,
on en reparlera plus tard. Hein.
On en parle pas.
En tout cas, on l'attend avec grande impatience. Bon, je vous dis aussi cela parce que je viens d'apprendre que Monsieur le Président a convié les chercheurs sur le plateau de Saclay, en deux mots... pratiquement dans le jardin et d'Olivier qui est avec nous. Donc effectivement, Olivier, je te l'annonce, ça va être un peu surchargé autour de la gare RER de Lozère, du côté de Polytechnique.
Qu'est-ce qu'ils vont faire à Saclay?
Eh bien, ils vont réunir
des chercheurs,
tout ce que la France et puis l'Inde, parce que c'est le grand invité de la journée, du sommet. Donc,
c'est ça le sommet, ouais, d'accord.
Le deuxième géant de la face cachée de la Terre. Donc l'Inde va avoir l'honneur de présider ce...
Co-présider.
Ah, oui, avec le président de la France, bien évidemment. Bon, ok, donc...
D'accord.
Ouais, donc je vous le disais, ça me laisse un peu sur la fin. J'aurais préféré quand même qu'on soit un peu plus informé de la chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Mais bon, en tout cas, nous, ça nous donnera un bon sujet d'émission prochainement. On essaiera de trouver un spécialiste sur le plateau qui
puisse... Mais ça dépend d'un autre ministère ou pas? Non.
Ah, là, c'est carrément dirigé par l'Élysée.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà. Aligre FM.
93.1.
Bon, on aurait bien essayé de la mettre le 12 février, mais le 12 février, c'est la case est déjà prise. On a notre rendez-vous avec Mayotte, avec on a préparé une émission spéciale sur le sujet. Donc 60 jours après Shindo, on essaiera de faire un premier bilan de la situation mahoraise. Mais bon, donc, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette madame la ministre, oui, cette semaine? Oui. Eh bien, je vais vous simplifier la tâche. Elle a fait à peu près la même chose que la semaine dernière. C'est un peu comme le film Un jour sans fin. On a l'impression que ça revient. Donc, cette semaine, elle a encore revu des...
Des pêcheurs?
Des pêcheurs. Les conchiculteurs. Alors, bon... On aime beaucoup la mer. D'ailleurs, c'est un grand sujet qu'on a prévu aussi de traiter.
Mais on n'a plus de ministère de la mer.
Oui, alors c'est vrai que c'est Madame la ministre a récupéré la mer, mais quand même deux ou trois semaines de suite sur la mer, je suis un peu surpris. Je sais pas, elle aurait pu aussi parler d'autres choses. Bon, d'un autre côté, j'ai pas non plus l'accablé, bon, déjà parce qu'elle a un faux air, elle ressemble un petit peu à ma petite sœur. Donc,
on n'est pas comme ça.
Voilà, donc on est pas comme sympa. Ça. Mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé l'entendre sur l'Office français de la biodiversité, qui aujourd'hui devient le bouc émissaire du monde agricole. On les mûre, on leur verse du fumier sur le pas de leur porte. On les accuse de venir prendre en otage pratiquement l'agriculteur, les terroriser parce que les gardes champêtres ont encore un revolver à la ceinture. Mais bon, c'est vrai quand même qu'ils ont leur fonction, l'une de leurs missions, c'est d'aller s'opposer aux braconniers qui sont généralement armés. Hein. Je vous rappelle, depuis la guerre des boutons, on a arrêté le braconnage au lance-pierre. Hein. Donc effectivement, que la police de l'environnement puisse avoir des flingues, dont des pistolets, je devrais dire, comme n'importe quel agent de la force publique, ça, je trouve pas ça forcément choquant. Mais bon, c'est devenu les boucs émissaires, les victimes expiatoires de la colère agricole. Puis quand je dis colère agricole, attention, hein, c'est pas les masses d'agriculteurs, c'est encore des noyaux d'excités extrêmement virulents. Heureusement que dans le monde agricole, d'ailleurs, j'invite tout le monde à lire l'édito de Plein Champ qui était en ligne.
C'est pas le chasseur français.
Non, c'est pas le chasseur français. Plein Champ, c'est une lettre internet sur l'agriculture, qui est un peu, on peut tout vous dire, qui est un peu dans la sphère du Crédit Agricole. Mmh. Et il y a un excellent édito de Raphaël Lecoq qui rappelle quand même que les agriculteurs ne sont contrôlés en moyenne qu'une fois tous les 100 ans, qu'il n'y a que 1% d'agriculteurs qui ont subi plus de 2 contrôles cette année. Donc là, a priori, sauf si les rapports ministériels du Conseil général de l'agriculture sont complètement erronés, a priori, il n'y a pas un excès, ils ne sont pas victimes d'un harcèlement agricole, dont un harcèlement procédurier excessif. Alors peut-être qu'il faudrait aussi en informer notre Premier ministre, parce que lui, pour le coup, il ne les a pas vraiment défendus, les agents de l'Office de la biodiversité. Bon, en tout cas, bon, peut-être que ça permet de ne pas parler des sujets qui fâchent. C'est vrai que le monde agricole a perdu cette année 30% de revenus, ou à peu près, suite aux crises climatiques. Crises climatiques qui, chacun sans doute, sont quand même fortement dues au changement climatique. Et puis ce n'est pas simplement une crise de l'année, hein. C'est une grande tendance. C'est vrai qu'on n'en parle plus. La France se drape encore dans ses oripeaux de grande puissance agricole. Sauf que quand on regarde les résultats du recensement général agricole, le RGA pour ceux qui connaissent, entre 2010 et 2020, on a perdu 10% de potentiel économique. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai, vrai problème agricole, un vrai problème français, mais... Comme d'habitude, on n'en parle pas. C'est comme si on ne parlait pas des vrais sujets qui fâchent. Bon, donc voilà, Madame la Ministre. Je sais pas, j'aurais bien aimé que vous mêliez un petit peu de ces affaires-là. Ah oui, pour terminer, sur l'OFB, sur l'Office français de la biodiversité, c'est aussi un petit peu normal. On peut comprendre qu'elle n'en ait pas parlé, mais parce que c'est plus dans son périmètre de compétences. Ah. Maintenant, l'Office de la biodiversité est passé à l'agriculture. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour faire des contrôles en exploitation agricole que d'être dans le ministère de l'Agriculture. Voilà, c'était tellement mieux entre soi. Voilà, bon, bah donc on va lancer notre musique, on en est fini de notre petite rubrique actualité, et puis on va pouvoir entamer notre discussion sur le backlash, sur Trump et comment va-t-il nous contaminer, l'agent orange, ou... Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous écoutez Aligre FM
93.1. Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fondo con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie sur Radio Aligre, pour, avec Olivier Lange et David Pierre, Guy Dichelli. J'ai toujours du mal à dire ton nom. Mais Donc voilà, on va pouvoir en venir à traiter de notre sujet de la semaine, le retour de Trump, et puis ce que ça peut vouloir dire sur les impacts en France et en Europe. C'est vrai qu'il a déclaré un peu la guerre à l'Europe. On attend de la réaction de l'Union européenne, de la Commission notamment, qui est un total silence un peu inquiétant. Mais l'autre question qui se pose, c'est effectivement, serions-nous déjà contaminés par l'agent orange, le backlash écologique, le retour de bâton, tout ce qui peut aujourd'hui essayer de casser les avancées, les pénibles avancées écologiques qu'on puisse se faire depuis une trentaine d'années. Olivier, David, est-ce que vous avez observé, vous, de votre côté, Ben aussi, des réalités de ce recul, des attaques?
Alors, de mon côté, la question ou la réflexion que ça amène, c'est au final, est-ce qu'on est sur la contamination de quelque chose, justement d'un phénomène, ou est-ce qu'on est juste sur l'expression d'un symptôme de quelque chose qui aussi nous touche aussi? Est-ce que Trump est une catastrophe, ou est-ce qu'il est le symptôme de quelque chose d'autre, de plus profond? Et à la limite, au-delà de parler de backlash, pour faire le lien avec ce qui était annoncé tout à l'heure, ou ce qui était lié tout à l'heure avec les attaques sur l'Office français de la biodiversité, sur tous ces mouvements de dérégulation, en fait, Trump, il est aussi le résultat de ces appels à déréguler, de ces appels à l'ultralibéralisme. Et ça, oui, on y est touché, on l'observe aussi. Il y a évidemment un risque à ce qu'on voit une accélération, parce que ça va. Il y a plein de gens qui vont se sentir d'autant plus libérés que le président américain, qui est très vocal et qui est très 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 soutenu par certaines parties de la sphère médiatique, soit dans cette lignée-là. Ça va certainement décomplexer beaucoup de gens. Ça, c'est une inquiétude. Maintenant, le phénomène, il est hélas antérieur. Moi, je vois vraiment Trump comme plus un symptôme de quelque chose qui clairement nous touche aussi.
D'accord.
Oh oui, je suis absolument d'accord. Je ne peux que
qu'abonder
dans ce sens. Et malheureusement, il y a la mondialisation des esprits, elle est réelle. Les outils utilisés pour la plupart des jeunes maintenant sont de communication et de réception d'informations sont américains. Enfin, donc là-dessus, il n'y a plus rien à démontrer. Et ce matin, j'entendais que Ciotti avait fait une conférence de presse. Alors, c'est du trumpisme internationalisé déjà, en faisant référence au président, oui, c'est ça, il est président, hein, argentin, en exposant une tronçonneuse neuve. Il y a eu une course à l'échalote la semaine dernière, absolument incroyable, sur Musk. Tout le monde voulait encourager. Enfin, en France, on a eu jusqu'à Valérie Pécresse qui s'est musquisée avec son histoire de hache, qui est devenu un terme presque qu'on a retrouvé, enfin, et qui était publicité par le public. Donc oui, je pense qu'effectivement, là, de ce côté-là, on va y avoir droit. On est en plein dedans, et notamment, oui, les agriculteurs dont tu parlais tout à l'heure et leur comportement. Qui font en se victimisant que ne cacher qu'enfouir les vrais problèmes, et avec aussi un problème sur la perception de l'information, parce qu'elle est faite pour être comprise en tuyaux, ou en tout cas par couche, alors que tout est cohérent dans cette histoire. On nous annonce en même temps que l'eau française a des points de contrôle et est absolument contaminée par des PFAS, qui sont le résultat en fait des pesticides, et en même temps on accepte complètement que l'idée de libéraliser, qu'il y a trop de réglementation, on assimile cette réglementation à toute autre réglementation, alors que en la matière, et malheureusement, toute chose n'est vraiment pas égale par ailleurs. Donc voilà, on est dans une grande confusion des esprits, et je pense que Trump, tout à fait, c'est le symptôme, c'est le résultat de tout ça, et qu'on a, nous, notre part, puisque l'Allemagne est à 25% avec l'AFD, je pense qu'en 2027 est quand même très favorable pour nous, au FNRN. Donc oui, il y a une trumpisation des esprits et qui passera par une déréglementation.
Donc il est plus que temps de réagir. Déjà, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est un petit peu désarmé, on ne sait même pas trop sur quelle priorité se fixer.
Pied dansé.
Sur quel pied danser. C'est vrai que déjà faire l'inventaire de ces retours de bâton, ce serait pas une mauvaise chose. Essayer peut-être de définir les acquis écologiques, les acquis environnementaux, me paraissent essentiels. C'est vrai que cette semaine, on a déjà vu aussi une charge du groupuscule LR à l'Assemblée nationale sur le budget des agences de l'environnement en général, de l'écologie, à commencer par l'ADEME. Alors c'est vrai que je crois que Madame la Ministre l'a défendu, mais c'est vrai qu'au nom de l'économie, s'attaquer à l'Agence de l'économie d'énergie, qu'on appelle ADEME maintenant, c'est un peu surprenant, surtout venant de la part de quelqu'un qui n'est pas le plus grand parangon de la droiture économique, quand on regarde les frais de dîner et d'invitation de l'ancien président de région d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a le droit avoir des doutes.
Aligre FM 93.1.
Bon, et toi Ben, qu'est-ce que tu as vu comme preuve de ce backlash
Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la résistance qui est en train d'être mise au point par les uns et par les autres, au niveau de la société civile et aussi au niveau des acteurs territoriaux. Et je pensais que là-dessus, tu aurais peut-être des éléments d'information sur les différentes villes qui, comme précédemment, n'ont pas suivi le diktat de la Maison Blanche et ce sont eux-mêmes ont décidé quand même de respecter par exemple certains critères des accords de Paris, etc. Non ?
Ben oui, et je suis ravi du coup de pouvoir partager ça, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup et on prend un petit peu tous sur nous, on a du mal à digérer la nouvelle quand même, c'est inquiétant sur beaucoup d'aspects. Je me permettrai d'ailleurs d'ajouter le fait que cette arrivée de Trump, elle est inquiétante sur les aspects bien sûr écologiques, mais aussi sur la prise en compte des relations entre société et écologie, et à quel point aussi les inégalités sociales elles-mêmes sont génératrices et amplifient le changement climatique, mais vont aussi pâtir d'autant plus, où les populations les plus défavorisées qui subissent cette inégalité vont pâtir d'autant plus de ça. Donc c'est en effet une nouvelle qui est dure à digérer, cette réélection de Trump. Par contre, heureusement, il y a des leviers de résistance qui sont déjà connus et qui sont même déjà activés. Il y en a un très très clair qui s'était activé dès le lendemain de son élection, de sa première élection, où en 2017, des villes et des États américains, et des counties américains, et aussi d'ailleurs des organisations de la société civile, mais parlons des gouvernements locaux, des représentants de la démocratie aux États-Unis, des gouverneurs et des maires s'étaient organisé dans un mouvement qui s'était appelé à l'époque « We are still in », donc nous sommes toujours dedans, parce que l'une des premières actions de Donald Trump avait été de signer un décret pour sortir des fameux accords de l'accord de Paris, ce qu'il a refait exactement l'air. En effet, cette initiative-là s'est depuis transformée, elle s'est pérennisée, elle est devenue une organisation qui s'appelle, ou un mouvement qui s'appelle America is still in, donc l'Amérique est toujours dedans, donc toujours dedans dans les accords de Paris, ou dans l'accord de Paris, et donc toujours dans le combat contre l'accélération du changement climatique et les émissions à outrance des gaz à effet de serre. Et on peut le noter, hier, le 20 janvier, Ce mouvement a sorti un nouveau communiqué. Alors, nouveau communiqué porté pas par n'importe qui. C'est le maire de Chicago, c'est le maire de Phoenix, c'est divers États. Il y a 11 États qui sont aujourd'hui signataires de ce mouvement. 360 villes. Enfin, ça représente, d'après le site, en fait, deux tiers de la population des États-Unis. Donc, les gouvernements locaux. Donc, représente les deux tiers des habitants des États-Unis. Donc ce mouvement, il n'est pas marginal, et c'est un mouvement démocratique en plus, c'est les gouvernements locaux qui eux-mêmes disent « en fait non, on est toujours dedans ». Les États-Unis, au niveau fédéral, sont peut-être claquent la porte de manière très théâtrale avec les projecteurs sur eux, mais en fait, sur le terrain, là où s'appliquent les solutions justement, là où sont trouvées les solutions, là où sont résolus les problèmes, les solutions qui vont vraiment toucher la vie des citoyens, ben, tout ça, c'est encore dedans. C'est encore en donc, action. Et c'est en,
donc,
c'est
ce
en résistance claire.
C'est qu'il y a de l'espoir. Donc effectivement, il faut prendre les choses en main et se redonner... Faut en parler suffisamment pour se redonner de l'espoir. C'est ce qui manque un peu aujourd'hui, quand même.
Absolument.
Parce que là, c'est vrai que ça fait 15 jours qu'on est dans un tunnel assez triste.
Oui, mais c'est, enfin, je le vois aussi comme une stratégie. La résignation, de toute façon, qui est liée au désespoir, elle est très utile pour ces agents-là. Donc, c'est très important de mettre en avant les solutions qui sont mises en œuvre dès aujourd'hui par tous ces différents acteurs, et notamment les acteurs publics. C'est ça qui est super intéressant. C'est pas toute la sphère publique qui déserte de ces thématiques.
Il n'y a pas que les ONG, il n'y a pas que les mouvements politiques.
Et c'est surtout pas du chacun pour soi. Il y a aussi des représentants politiques, des représentants élus démocratiquement, qui sont toujours dans ce combat.
Comment on peut tisser les liens ? Comment on peut construire des ponts entre les villes, entre les pouvoirs locaux pour pouvoir résister à ce...
Ça se fait déjà, non ?
Voilà. Dire Steel In, c'en est une, en fait. Et ils se sont fédérés, ils ont fait savoir qu'ils étaient ensemble, et à plusieurs strates administratives.
Je les ai jamais entendus à la télé, ou c'est quand même...
Oui, mais il faudrait que tu mettes une alerte sur ton téléphone, et tu entendrais plus parler d'eux. Il faut chercher l'information, parce qu'on n'est pas directement concernés. Et nous, je ne sais pas si on a l'équivalent, tu dois le savoir, toi, David, s'il y a en France l'équivalent de collectivités qui sont associées pour résister, pour marquer, puisqu'il y a quand même une empreinte écologique en train de se marquer au niveau des mairies. Là, c'est clair, avec Grenoble, Bordeaux, Lyon, ils sont extrêmement bâchés. Dès qu'ils freinent une initiative, on a l'impression que le diable se réincarne en eux. Mais est-ce qu'ils sont plus organisés ? Est-ce qu'ils ont réussi à se fédérer ?
Mais il y a clairement des organisations, des fédérations qui ne sont pas forcément nées d'un mouvement de résistance. Clairement, We Are Still In, ça s'était lancé là-dessus. Là, il n'y a pas nécessairement eu besoin, pour l'instant, de ces mouvements de résistance. Et donc, il y a des réseaux européens qui se sont créés face à l'urgence écologique, mais pas forcément face à une urgence de gouvernance et une urgence démocratique. Et il y a un réseau qui s'appelle ICLEI, il y a le réseau des villes Eurocities, il y a le réseau des grandes capitales européennes, le C40, qui est investi C40. Dans ces questions climatiques spécifiquement. Ouais. Donc il y a beaucoup d'organisations, et organisations évidemment qui s'appuient aussi sur les initiatives citoyennes, etc. Et c'est eux qui élisent. Par contre, ce que tu soulevais est très intéressant. Il y a aussi toujours cette pression, parfois médiatique aussi, la pression de divers acteurs politiques sur les initiatives qui sont portées par ces mairies, qui peuvent être un petit peu en première ligne sur l'action climatique, etc., l'action environnementale. Quand je me dis, là-dessus, il va pas falloir faire les malins. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer aux prochaines élections qui arrivent bientôt. Hein. 2025 va aussi être une année charnière pour ça. Ouais.
Tu nous fais une transition pour l'une des prochaines émissions. On va lancer en mars une émission sur le thème municipal... dans un an, quoi. On parle des J-1, mais là c'est A-1. Donc on va se faire une émission sur cette question en mars. Il faut qu'on voit encore qui on invite. D'ailleurs, on est prêt à écouter toutes les propositions. Effectivement, puisqu'on est une émission d'écologie citoyenne, on peut considérer aussi que les municipales, c'est par définition notre élection la plus significative. C'est vraiment l'écologie de proximité. Ça va être dans les conseils municipaux que ça se passe. Donc effectivement, réinvestir le champ politique, peut-être par le bas, au lieu d'être toujours par le haut. Changer un petit peu ce schéma, cette pyramide. Voilà.
Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des villes et qu'on parlait des différentes assos et des coordinations et des réseaux... Il y a même les entreprises, il y a pas mal d'entreprises qui aujourd'hui font partie de ce front de résistance et qui veulent elles aussi continuer. Tu l'as là ? Business and investors.
C'était plus, et ça peut faire le lien avec la question qui était posée avant, ces mouvements qui sont nés des gouvernements locaux, en fait maintenant ils intègrent aussi des associations, ils intègrent aussi des entreprises. Il y a plus de 2900 entreprises américaines qui sont dans le réseau America is Still In. Il y a aussi évidemment des associations locales, etc. Donc ça commence à sortir aussi, c'est impulsé par ces gouvernements locaux, mais ça commence à toucher les associations, à toucher les entreprises en effet. Heureusement, ces réseaux, en fait, ils cristallisent un petit peu tout ça, puisqu'ils sont, ils sont territoriaux.
Europe, notre grande Europe, la grande muette là. Est-ce qu'elle se réveille un petit peu ? Est-ce qu'on voit apparaître, j'irais, ces mouvements qui permettre de fédérer un peu les énergies. Et la question, c'est quand est-ce que ça va devenir un peu plus visible? Parce que j'imagine que beaucoup de gens travaillent sur ça. C'est comme dans le monde associatif, il y a beaucoup de bonne volonté. Mais il y a un moment, il va falloir émerger,
C'est une bonne idée, François. On va faire une émission spéciale sur ce qui se fait sur le front européen. Je pense que c'est...
Bah oui, il va falloir que ça émerge.
L'équivalent, tu as l'équivalent de ce qui se fait aux États-Unis.
Parce que aujourd'hui, on ne sait plus trop vers qui se tourner, quoi. Qui sont nos défenseurs, sur quoi s'appuyer. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont, puis peu de moins jeunes, hein, des néo-retraités, qui vont pouvoir aussi avoir du temps et s'engager. Je crois qu'on avait prévu aussi une émission sur l'engagement.
Écologique. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est
donc
sûr.
Voilà. Donc en fait, il va falloir effectivement cultiver un tas de nouvelles pistes pour faire front, parce qu'on ne va pas choisir. Hein. Donc on va s'écouter une petite musique également. Donc, je crois que c'est Camille qui revient.
Refrain musical.
Oui, on va faire notre pause musicale. Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie, pour affûter un peu les armes. On se dit qu'il va falloir se défendre contre les attaques du backlash, l'écolo-bashing qui est en train d'apparaître, et pas que de l'autre côté de l'Atlantique, on le voit aussi en France. Mais comme le disait David Pierre, on peut aussi miser sur des nouvelles pistes. Alors, des alliances entre des pouvoirs locaux, des entreprises qui ne veulent pas subir la loi du plus fort, la loi du talion qu'on nous promet. Donc effectivement, peut-être que le sujet qu'on pourrait traiter ensemble, c'est de savoir comment on fait pour se réunir, se retrouver. Alors par exemple, à Orsay, où j'habite, ils ont lancé, la mairie a lancé une initiative sur l'Assemblée du climat. Donc voilà, c'est une initiative citoyenne.
C'est quoi, raconte un peu.
Ils se réunissent et ils débattent de l'agenda climatique. Alors c'était la première réunion la semaine dernière. Bon, un peu bizarrement, ils se sont préoccupés de la forêt. C'est vrai que la forêt peut avoir un rôle sur le climat, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, pour avoir travaillé sur le sujet il y a bien longtemps, mais c'est pas non plus le sujet le plus déterminant. Aujourd'hui, l'impact sur le climat local, du moins sur l'empreinte climatique carbone locale, c'est plutôt l'habitat, c'est plutôt les modes de consommation, et puis le premier, c'est la voiture, hein, c'est les déplacements individuels. Bon, donc effectivement, mais de toute manière, l'essentiel, ce qui est peut-être essentiel, c'est qu'on en parle. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a attendu 35 ans pour avoir une émission de télé météo-climat sur la chaîne publique, mais il faut aller plus loin. Il faut aller sur comment on peut faire, comment on peut interagir sur nos émissions, sur est-ce qu'il faut prendre le vélo ou la voiture, quelle est l'empreinte du commerce en ligne. Le commerce en ligne, c'est génial. Il y a plus besoin de magasins. Mais est-ce
L'Italie a fait très fort.
Ah ouais.
Au niveau de oui, j'en ai déjà parlé.
Oui, mais j'ai pas tout écouté.
L'enseignement sur tous les enjeux climatiques à partir de la primaire. C'est le premier pays d'Europe qui le fait et depuis 2022.
Bon c'est bien. Bravo les Italiens.
Magnifique.
Ouais.
Non mais c'est même étonnant de la part des Italiens qui sont aussi dans le mouvement dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que Meloni, c'est pas la plus grande des progressistes. Elle est la représentante de Trump en Europe d'ailleurs.
C'est pour ça que c'est intéressant de le citer.
C'est intéressant, il y a beaucoup de contradictions effectivement.
Beaucoup de contradictions aux États-Unis aussi.
Oui.
Ouais, c'est marrant.
Oui, enfin aux États-Unis, au niveau des programmes scolaires, ils vont très très loin. Hein,
puisque les enjeux sont autres.
Darwin est interdit dans la plupart des écoles, où le prof qui a enseigné Darwin prend un risque de se prendre un procès en retour et d'être mis en cause, parce qu'évidemment, comme tout chacun le sait, on vient tous d'Adam et Ève, hein, et donc il y a énormément de difficultés, à tel point que je crois que la ministre de l'Éducation qui a nommé Trump fait rigoler tout le monde, parce que, alors autant la nôtre, Elisabeth Borne, ancienne Premier ministre, n'y connaît rien, autant celle de Trump, je ne me rappelle plus l'identité.
Elle connaît trop.
Non, elle a dû faire de l'enseignement de la boxe thaï ou un truc comme ça, un sport de combat. Un sport viriliste, mais en fait, donc les enjeux d'éducation sont très importants, et parce que, à mon avis, oui, on si on veut le faire en douceur, si on veut que la transition se passe bien, on a pris un retard conséquent, mais il faut le souhaiter, qu'il n'y ait pas de violence, il faut que ça passe par l'éducation du plus jeune âge, et que ces éducations ne fassent pas l'objet de débats ou de conflits en eux-mêmes, puisque c'est ce qu'on voit sur ce terrain-là aussi, en France, on remet en question beaucoup de... Derrière ce mot de wokisme et derrière tout ce qui se cacherait derrière le wokisme, le combat LGBT, tout ça fait des amalgames. Et je crois que ces enseignements-là peuvent être vite remis en question parce que considérés comme partisans, comme tant qu'il n'y aura pas aussi une vérité scientifique respectée, restaurée et respectée. Il aura beaucoup de mal à avoir un univers éducatif qui trouve ses marques et qui soit incontesté, comme ça a longtemps été par les blouses grises qui a créé la République. Ça fait partie aussi de l'érosion des républiques, hein, la remise en question des modèles d'enseignement. Et on baigne à l'intérieur. Donc bravo aux Italiens, on peut le souligner quand même.
Donc, c'est toi l'éducateur ici autour de la table, donc c'était normal que tu prennes la parole sur ce, sujet.
Mais bon, c'est vrai que le côté grand guignol de Trump peut faire sourire, mais je crois que cette farce est là pour cacher un vrai programme politique de réaction. Je ne crois pas que ce soit des comiques.
Sur l'éducation, c'est le petit parti. Le petit parti, c'est les années 2000. Ouais. Dans les années 80, Reagan, on s'en souvient mal, parce que beaucoup de nos auditeurs, je l'espère, n'étaient pas nés. Mais Reagan, c'était un ultralibéral qui avec Thatcher, a mis le monde en coupe réglée tel qu'on connaît maintenant, qui a lancé cette espèce de retour du...
Le TINA.
Oui.
There is no alternative.
Bon,
no alternative.
Ok. Voilà. Oui. Effectivement, l'histoire est terrible, on pourrait en parler sans fin, mais le problème, c'est l'action. Quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on va se servir, on a grosso modo, on a un an, deux ans pour sortir de la mouise. Hein. Si 2027 nous fait un Trump à la française, avec une perruque version blonde platine ou pas.
Et les arènes de l'écologie peuvent servir de tremplin.
Ah, les arènes de l'écologie vont sauver le monde, c'est bien évidemment. vous savez pas, il y a Astérix ou ça, Obélix, bon, on vous laisse répartir les rôles. Blague à part,
j'amuserais quand même à dire, l'éducation est un vecteur extrêmement important, mais l'information, et donc l'éducation des adultes en continu, est aussi un vecteur énorme. Et alors, des médias comme celui sur lequel on est aujourd'hui, des médias libres, des médias indépendants, des médias qui sont loin justement de l'influence de milliardaires, parce que là,
on n'est pas chez les milliardaires, on vous confirme. Voilà.
Mais c'est clé justement pour
ça
avoir...
manque des milliardaires.
D'ailleurs, on fait un appel aux milliardaires qui souhaiteraient renflouer Radio Aligre, ils sont les bienvenus.
Ah, moi je dirais non, surtout pas.
Non mais alors avec un bon esprit, il y a une charte à signer.
Alors peut-être. Non mais il y a pas mal de médias, il y en a beaucoup qui montent avec des modèles coopératifs notamment, dans lesquels les gens peuvent justement s'intégrer, peuvent prendre des parts sur des formats de coopératives. Je sais pas si j'ai le droit de citer d'autres médias ici, mais il en existe. Non mais par exemple il y a Le Média ou il y a Blast qui sont des médias coopératifs, et je donne juste ces exemples pour dire qu'il est possible pour des citoyens de prendre part et de nourrir justement comme les milliardaires le font.
Bah écoute, Pierre David, on va David
Pierre.
Il nous reste à remercier ces Farem Famille qui a tenu les boutons de la régie et qui me fait signe que on arrive à la fin de l'émission. Donc on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.
Et puis Olivier.
David Pierre, merci beaucoup. Ben, écoute, on se revoit bientôt.
Merci.
Plein de merci. Et puis perdons pas le moral, il va falloir réagir et repartir. Allez, on y va. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous.
Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
She was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose. And as she stretched, the sun rose. Go. She must have had so many lives. Was it the first?
last? Was it the last? Go, 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 go away, go away, go away, go, 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 go away, go away. When she was ill, she was a whale. She was so patient. She would wait until I sang by the lane. The sweetest tunes to ease her pain. When she was old, she was an owl. I saw her swaying in the sky. The day she died inside my arms, I realized she was a cat. Go.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.